Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. On commence par du football. Actualité oblige. Coup d'envoi du Mondial 2018 aujourd'hui en Russie. La fête du sport roi va durer un mois au pays des stars. Mise en perspective, Yacouba Ouedraogo.
La succession de l'Allemagne vainqueur du Brésil 2014 est ouverte et l'heureux gagnant sera connu le 15 juillet à l'issue de la finale. Le match d'ouverture opposera tout à l'heure le pays hôte, la Russie, à l'Arabie Saoudite. Au total, 32 équipes sont en lice, dont 5 africaines, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Nigeria et le Sénégal. Les Lions de la Teranga sont logés dans le groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Après 3 matchs nuls contre l'Ouzbékistan 1-1, la Bosnie 0-0 et le Luxembourg 0-0 également, le Sénégal a perdu face à la Croatie 1-2 avant de remporter son dernier match de préparation 2-0 devant la Corée du Sud, sa seule victoire dans ses matchs amicaux. Pas de quoi entamer le moral du sélectionneur qui se dit confiant. Aliou Cissé.
Nous venons ici avec vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté pour représenter notre pays, essayer de faire le maximum pour nous. Je crois que pour un footballeur professionnel, ce qui est important, c'est de jouer une Coupe du Monde. Pour un entraîneur, la chose la plus importante, c'est coacher une équipe qui joue une Coupe du Monde. Donc c'est une fierté pour nous. Nous allons rencontrer 31 équipes, grandes équipes. Le Sénégal aussi fait partie de ces grandes équipes. On a des arguments à faire valoir.
Aliou Cissé s'est exprimé au micro d'Amdine Nassi sur place à Kaluga, au QG des Lions de la Teranga. Bien avant le Sénégal qui ouvre son bal face à la Pologne le 19 juin, deux formations africaines, le Maroc et l'Égypte entreront en lice dès demain vendredi, respectivement contre l'Iran et l'Uruguay. Les Lions de l'Atlas sont logés dans le groupe B avec l'Espagne, le Portugal et l'Iran. La plus grosse performance du Maroc au Mondial, on le rappelle, remonte à 1986 où il a été 8e de finaliste. Malgré la présence des monstres espagnols et portugais dans leur groupe, les Marocains se disent prêts. Écoutons leur capitaine Mehdi Benarsia.
Pas des matchs amicaux, c'était plus des matchs de préparation à cette Coupe du Monde. Donc voilà, il fallait montrer qu'on était en train de travailler correctement. Un stage qui, pour l'instant, se passe très bien. Beaucoup de travail, les résultats ont été positifs aussi dans l'ensemble. Donc, comme je dis, voilà, il y a plein de bonnes choses à retenir, des choses encore à améliorer. Mais je pense qu'on peut aller en Russie en étant confiant et en sachant qu'on est capable de faire quelque chose.
Mehdi Benarsia, capitaine des Lions de l'Atlas.
Rendez-vous cet après-midi, la politique en Russie. Le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny, a annoncé avoir été libéré aujourd'hui après 30 jours de détention, à quelques heures seulement du coup d'envoi donc du Mondial 2018. Je suis de nouveau avec vous. Après un séjour de 30 jours en détention, je suis terriblement heureux d'être en liberté, a-t-il écrit sur Twitter. La justice russe avait condamné Alexei Navalny pour avoir organisé une manifestation 2 jours avant l'investiture de Vladimir Poutine à un 4e mandat présidentiel.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
82 personnes ont été tuées et 76 autres enlevées ou kidnappées au courant du mois de mai dans les provinces troublées du Nord Kivu et du Sud Kivu dans l'Est de la République démocratique du Congo, selon un rapport paru mercredi. Ce document réalisé par l'ONG Human Rights Watch et le groupe d'études sur le Congo, GEC, de l'Université de New York, établit mensuellement la cartographie des pires violences dans ces deux provinces. Les provinces du Nord et du Sud Kivu sont en proie à des violences meurtrières de groupes armés nationaux et étrangers depuis plus de 20 ans. La Cour pénale internationale, la CPI, a annoncé le lancement d'un programme d'assistance d'1 million d'euros pour les victimes centrafricaines de miliciens de Jean-Pierre Bemba. L'ancien chef rebelle et vice-président a quitté, vous le savez, la CPI après son acquittement. La responsable adjointe de la justice internationale de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, FIDH, Delphine Carlin, s'inquiète de la protection des sources dans le dossier Bemba.
C'est surtout le verdict en lui-même, l'acquittement en lui-même qui est un choc. Nous avons ces derniers jours exprimé notre étonnement par rapport à l'interprétation des 3 juges de la majorité de la Chambre d'appel, l'interprétation de statut de la CPI et notamment l'interprétation assez restrictive de la responsabilité du supérieur hiérarchique et du chef militaire. Il me semble que sa sécurité et sa protection est peut-être moins en jeu en Belgique. On reste particulièrement vigilant, par contre, par rapport à la sécurité et la protection de tous les défenseurs des droits humains qui ont pu documenter tous les crimes commis par les troupes du MLC.
Delphine Carlens, responsable adjointe de la justice internationale, de la FIDH à Paris. Au Congo-Brazzaville, le gouvernement a annoncé la reconnaissance de 55 partis politiques sur les quelque 200 qui existent déjà dans le pays. Parmi les formations appelées à disparaître au terme de cette nouvelle loi, plusieurs appartiennent à des figures de proue de l'opposition. Pour Eric Mampouya de la Fédération de l'opposition congolaise, cette nouvelle disposition rétrécit l'espace de la démocratie dans le pays.
Nous pensons que le Congo est occupé par un régime qui se maintient par la force. Nous, en tant que parti ou bien mouvement, nous n'allons plus exister, d'accord? Mais nous avons connu dans ce pays-là, dans l'époque du marxisme, les églises étaient interdites, les partis étaient interdits, et ça n'empêchait pas les Ngunza de fonctionner ou les Mathieuanistes de se réunir. Et nous sommes frappés d'interdiction. C'est simple, nous allons rentrer dans la clandestinité. On ne peut pas nous empêcher de penser, de rêver à un autre Congo.
Eric Mampouya de la Fédération de l'opposition congolaise à Brazzaville. Vous suivez VOA Afrique. La famille de Sophie Petronin, l'otage française enlevée au Mali fin 2016 qui est apparue mercredi dans une nouvelle vidéo, a accueilli cette vraie preuve de vie comme une bonne nouvelle tout en appelant le gouvernement français à l'action. Âgé de 75 ans, l'otage qui dirigeait au Mali une association d'aide aux orphelins a été enlevé à Gao dans le nord du Mali le 24 décembre 2016 par des hommes armés. Aucun groupe n'avait revendiqué le rapt jusqu'à ce qu'en juillet 2017, la principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda diffuse une vidéo montrant 6 étrangers enlevés au Mali et au Burkina Faso entre 2011 et 2017, dont Sophie Petronin. En Haute-Guinée, l'affrontement récurrent entre les populations locales, le plus souvent, l'accès à la terre est l'une des causes pour la recherche de l'or ou la culture du cajou. Le journaliste Amadou Thiam, joint à Cancan dans le nord de la Guinée, situe ici les enjeux des frictions communautaires.
Avec la politique agricole de l'État, il y a eu la relance de la culture de cajou. Il faut voir, le prix d'un kilo de cajou avant en Guinée était aux environs de 2 000-3 000. Mais actuellement, il faut voir, depuis l'année dernière, on parle de 6 000, 7 000, 8 000, des fois voire même 10 000. Alors les gens partout des terres qui n'étaient pas utilisées avant. Alors actuellement, les gens se sont orientés vers les cultures d'exportation. Et cela crée des problèmes entre les communautés. C'est les mêmes problèmes qui se visent lorsqu'il s'agit aussi des terres que les gens réclament pour l'exploitation minière. C'est le même problème. Mais vous allez voir que ces problèmes-là sont souvent très reculants dans la région qu'on appelle en Guinée la Haute-Guinée, surtout. Surtout, c'est en Haute-Guinée où on entend beaucoup de problèmes de ce genre liés aux terres agricoles et liés pour l'exploitation minière.
Amadou Thiam, journaliste à Cancan, dans le nord de la Guinée. 2 personnes ont été tuées à coups de couteau aujourd'hui dans une mosquée de Malmesbury, dans le sud-ouest de l'Afrique du Sud, par un homme qui a été abattu par la police un mois après une attaque similaire dans un autre lieu de culte musulman du pays arc-en-ciel. Le suspect, âgé d'une trentaine d'années, armé d'un couteau, a chargé la police qui tentait de le persuader de se rendre, a déclaré à l'AFP une porte-parole de la police provinciale. Il a ignoré cette demande, il a essayé d'attaquer la police et a été donc abattu. Le défi du nouveau président angolais João Lourenço, voir son pays, une ancienne colonie portugaise, intégrer à la fois la francophonie et le Commonwealth britannique. La mission ne s'annonce pas impossible, à en croire le chef de l'État angolais, qui tente coûte que coûte d'attirer les investisseurs étrangers dans son pays producteur de pétrole, mais embourbé depuis des années dans une profonde crise économique. João Lourenço en veut pour preuve le Mozambique, une autre ex-colonie portugaise qui a rejoint le Commonwealth en 1995. Les États-Unis ont tenté aujourd'hui de rassurer leurs alliés asiatiques sur l'issue du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, assurant que le dirigeant nord-coréen avait compris que la dénucléarisation devait intervenir rapidement et que les sanctions seraient levées qu'en fin de processus. En visite à Séoul dans la foulée du tête-à-tête historique de mardi à Singapour, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a réaffirmé que l'objectif de Washington restait la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord, malgré l'absence de cette formulation clé dans la déclaration commune Trump-Kim. Et le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a réclamé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête internationale après la publication du premier rapport sur les violations commises par l'Inde et le Pakistan dans la région disputée du Cachemire. Jean-Roger Billon, fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Okoko Bioko!